Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Un bon lundi, de bon matin, avec plein de viennoiseries. Pourquoi cela ? Je pose la question à mon invité, comment vas-tu Rodolphe ? Et pourquoi il y a des viennoiseries devant toi ?
Eh bien, je vais très bien, merci. Il y a des viennoiseries devant moi parce que je suis boulanger qu'on vient d'aller chercher dans le magasin à l'instant.
Alors, la première vraie question, un boulanger se lève à quelle heure ?
Alors, moi, je me lève... Alors, un boulanger se lève plutôt vers 4-5 heures. Moi, je me lève plutôt vers 7 heures.
Donc là, c'est le début de la journée pour toi.
Exactement, c'est le début de la journée. Je commence avec toi, d'ailleurs.
Excellent. Bon, raconte-nous... Déjà, explique-nous où est-ce qu'on est. Enfin, on a le plaisir d'être...
Alors, là, on est Place de la République. On est dans les bureaux de Maison Landman. On est au-dessus du magasin parce qu'on a un plateau au-dessus de la boulangerie.
Ouais.
C'est super cool. Ça fait partie du bail. Donc, on économise un petit peu de sous. Et donc, on est dans le centre de Paris.
On s'en doute pas.
Près de la Place de la République.
De l'extérieur.
Non, de l'extérieur, tu vois pas. Ouais.
Vous êtes combien là ? On a eu le temps de passer un peu sur le plateau, mais il y a combien de personnes ?
Sur ce plateau-là, on a à peu près une vingtaine de personnes. On a splitté entre les différentes enseignes. Et tout. Ici, il n'y a que les supports qui concernent l'entreprise Maison Landman.
Ok, d'accord. Bon, vas-y, explique. Parce que s'il n'y a que les supports qui sont sur l'entreprise Maison Landman, c'est que ça sous-entend qu'il y a d'autres entreprises.
Oui, en fait, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs enseignes dans le groupe avec plusieurs initiatives différentes. Maison Landman, c'est la base, c'est celle que j'ai fondée il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc ici, on n'a que les fonctions support classiques de Maison Landman. Et après, sur les autres enseignes que sont Len & Monkey demain ou la startup Yungo, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on a splitté avec chacun des bureaux qui sont dédiés à chaque entreprise. Par contre, ici, on a juste mutualisé un peu tout ce qui est finance et RH.
Et donc, du coup, tu dirais, juste pour comprendre, tu es à combien de temps entre Maison Landman et les autres activités ?
10 minutes. Non, je me suis pas mal organisé là.
Non, non, je te parle pas entre
les bureaux.
La répartition,
du business.
10 minutes par jour sur Maison Landman.
Non, tu veux dire quand est-ce que j'ai démarré les autres activités ?
Je veux comprendre aujourd'hui comment tu répartis ton temps entre ces activités, comment on jongle.
Ouais. Alors, il y a des actualités, des impératifs qui sont. Enfin, tu te plies aux impératifs, par exemple, sur Yungo, la startup, qui développe des alternatives aux œufs dans les recettes. On est en pleine levée en série A, donc là j'y passe beaucoup de temps depuis 3 mois.
C'est quoi le nom de cette boîte ?
Comment ?
C'est quoi le nom de cette startup ?
Ça s'appelle Tamago Food. Le produit qu'on vend s'appelle Yungo. Au début, on avait choisi Tamago qui veut dire œuf en japonais. Et puis le domaine était pris par un gros groupe japonais qui s'appelait Mitsubishi. Donc on a dit, on va pas les asticoter, tu vois.
Mitsubishi qui fait de la.
Non, mais en fait, là-bas, tu sais, au Japon, l'œuf, c'est le Japon qui consomme le plus d'œufs.
Ouais,
c'est un énorme marché.
Ouais, ok.
Et donc, on a enlevé le Tama et on a mis Yumi, tu vois, le gourmand.
Ok.
Yumgo. Et ce qu'on fait dans cette entreprise-là, c'est qu'on cherche des protéines, enfin, des alternatives végétales qui permettent aux professionnels de végétaliser leurs recettes, enfin, de simplifier la végétalisation. Parce que l'œuf, c'est la protéine animale qui est la plus présente dans les recettes, que ce soit des recettes salées ou des recettes sucrées.
Mmh.
Et donc, comme je te disais, on est en pleine levée en ce moment depuis 3-4 mois. Donc, c'est intense, c'est dense en termes d'implication personnelle avec Anne, qui est la cofondatrice avec moi. Donc, j'y passe beaucoup de temps, probablement un bon 40-50% en ce moment.
Ok. Et attends, et juste avant de rentrer
dans les détails.
Ouais, dans les détails. Donc tu nous as parlé de cette start-up, tu nous as parlé de Maison Landman. Il y a quoi d'autre juste donc, qu'on fasse le.
Ouais, donc la Maison Landman, qui ouais. est la maison historique que j'ai fondée il y a plus de 15 ans maintenant, 16 ans, qui est un réseau de boulangerie-pâtisserie. Je dirais premium accessible parce que c'est un peu le rendu sur lequel
on se. Tu m'as dit au téléphone une petite quarantaine de boulangeries.
Exactement, entre Paris et Tokyo, il y a une trentaine d'établissements parisiens et 5 établissements au Japon.
5 au Japon.
5 au Japon. Et donc qui est la première entreprise qu'on a développée, comme je te le disais, donc première accessible, c'est on n'est pas sur un segment luxe, mais on n'est pas sur un segment trop mass market. Mm-hmm. Bon rapport qualité-prix, avec des emplacements stratégiques qui sont des emplacements plutôt avec un triptyque passant, résidentiel et bureau.
Ouais, je vais dire, bah là on est à Répu, ok, c'est ça. République.
On n'est pas focus sur du tertiaire avec du 9e ou du 8e où on aurait que des bureaux,
okay.
ou du touriste où on serait près de Notre-Dame ou des choses comme ça. On est vraiment sur ce triptyque locaux, des gens qui résident dans le quartier, des gens qui viennent se restaurer entre midi 14, donc le fameux tertiaire,
mm-hmm.
et du touriste, enfin des passants, etc. Donc c'est vraiment ce triptyque là. Qui correspond le plus à la marque. Donc on est beaucoup rive droite entre le 9, 10, 11, 18, 20, ces quartiers-là, avec quelques entités quand même rive gauche dans le 14.
Je vais dire rive gauche, c'est quoi? C'est considéré comme résidentiel?
Bah des rétros. Non, je rigole.
Attention, non, j'ai grandi dans le 15, moi.
Non, on est dans le 15. Non, en fait, c'est très résidentiel, exactement. Et ça s'est fait de façon empirique, assez naturellement, avec des opportunités de marché qui ont favorisé cette grappe qui est plutôt rive droite.
Ouais.
Mais pour le coup, on va quand même aussi rive gauche. On est présent dans le 16e, on est présent dans le 15e, on est présent dans le 14e, avec peut-être un peu moins d'entité que la rive droite et les arrondissements dont je te parlais tout à l'heure.
Bon, je vais pas te faire de la pub, mais bon, je suis quand même passé dedans. Enfin, je suis passé manger une viennoise et un bon sandwich au hasard. En plus, je te le disais, chercher une boulangerie, il y avait marqué Maison Landman. Je valide la qualité.
Merci.
Revenons avant à ça, mais t'as pas totalement répondu à ma question. Je t'embête un ouais. tout petit peu, Rodolphe. De toute manière, c'est un peu le bazar cette conversation, mais c'est ma marque Vas-y. De fabrique, ne t'inquiète pas. Tu m'as dit donc la start-up, la Maison Landman, c'est quoi? Et je crois qu'il y a une troisième activité que
en
vous développez.
En fait, Land & Monkey, c'est le réseau de boulangerie-pâtisserie 100% végétal qu'on développe depuis maintenant 3-4 ans.
Qui est différent des 30 ouais. et quelques boulangeries en France et à Tokyo. Okay.
Ouais, pour le coup, là, c'est complètement une entreprise qui disrupte le marché, dans le retail aussi, mais disrupte dans le sens, dans l'offre, puisqu'on okay. est 100% vegan et que la boulangerie-pâtisserie, normalement, t'as quand même beaucoup de produits, de sous-produits d'origine animale. Donc, il y avait un vrai effort d'essayer de disrupter ce marché-là. Mais il y a vrai... effort, une vraie volonté de disrupter aussi dans la RSE. C'est que cette entreprise-là, on l'a tissée, construite autour de la RSE. On en parlera peut-être un peu plus dans les détails. Mais on a voulu... moi, je voulais faire une entreprise de retail qui soit en adéquation avec le 21e siècle et les problématiques qui correspondent à ce siècle-là. Mmh. Donc, les problématiques, c'est le waste, les pertes, la végétalisation, le plastique, la répartition de la création de valeur, enfin, plein de choses qu'on a. Voilà, on est parti d'une feuille blanche. Et on a écrit qu'est-ce que c'est une entreprise idéale au 21e siècle, enfin idéale, plus en adéquation avec les problématiques qu'on connaît tous. Tu vois, c'est comme ça qu'on est parti. Donc on est parti d'une feuille blanche avec peut-être même beaucoup d'utopie et de naïveté au départ, mais finalement ça a fonctionné. Et donc, on développe cette enseigne sur Paris maintenant, en national et après à l'international, en franchise et en master franchise.
C'est une intro magnifique. J'allais dire, c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs qui commencent avec une boulangerie et qui voient leur impact un peu plus loin que juste même le produit qu'ils vendent ou le service qu'ils proposent. Bon, chers auditeurs, vous l'aurez compris, on va parler de boulangerie, mais pas que. On va parler de tech, on va parler des enjeux du 21e siècle et on va parler de passer de une à, c'est quoi, 35 ou 40 boulangeries, là, vous êtes à combien?
On est à une quarantaine avec les
une
deux
quarantaine,
deux marques.
Ok. Mais quand même, avec un petit renouveau depuis 3-4 ans, l'envie d'aller chercher des œufs végétaux, on appelle ça comme ça?
Ouais, on dit végétaux parce que mais c'est des solutions végétales qui permettent de
plant-based.
Ouais,
de...
C'est une solution végétale qui permet de remplacer la fonction de l'œuf dans la recette. En fait, l'œuf, il a une fonction dans la recette.
J'ai envie de connaître les débuts. Ça ressemble à quoi la V1, la toute première boulangerie, et c'est quoi la vision derrière? Ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment tu crées une boulangerie, t'arrives à une quarantaine, mais en fait, avant même d'atteindre la quarantaine, t'es déjà en train de vouloir innover pour changer tout le process de création, plus créer une tech sur justement les plant-based eggs. Donc raconte-moi le début, ouais. C'est quoi la vision? Est-ce qu'un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit
Non.
je vais être entrepreneur, je
Ah
vais créer.
oui. Non, mais en fait, je crois pas trop au mec qui se réveille et qui dit je veux monter une boîte. Franchement, je crois
Tu crois pas aux révélations?
je trouve que c'est ça vient des guts, quoi. J'ai vraiment l'impression. Et moi, depuis tout jeune, je savais que je voulais monter une entreprise, mais je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. Je suis dans un milieu très populaire où on parle pas de business.
Bah alors pourquoi? C'était quoi l'idée que t'avais de jeune de monter une
Mes parents
entreprise?
étaient pauvres et je voulais faire de l'argent, pour le dire simplement.
Donc tu
Vraiment.
voulais, ok.
Ouais, moi mais par contre, je connaissais pas du tout cet écosystème. Je viens de la Normandie, enfin, moi je viens de loin, hein, je viens d'un autre monde. Et ça se passait bien à l'école. Je suis allé jusqu'au terminal scientifique, je pouvais faire des études, c'était pas ma came, mais ça se passait très bien.
Bosseur,
Non,
donc
gros feignasse,
facilité.
ouais.
Oh, comme on te déteste.
Et non, mais plutôt le contraire avec mes parents qui disent ah c'est bien, on va avoir, enfin tu vois, tes parents qui te poussent pour faire des belles études, blablabla, tu vois, parce que ça se passe bien. Donc. Et moi, non, pas du tout à l'aise dans cet écosystème de l'éducation nationale. Et je savais
C'était quoi
pas,
comme étude?
je voulais faire, enfin les sujets qui me passionnaient, on en est loin, c'est l'éthologie,
L'éthologie?
ouais, l'étude des animaux,
Ok,
les eaux et
d'accord.
forêts, la bio, toutes ces choses-là.
Donc
Euh,
nature quand
donc,
même.
donc j'ai fait un peu de, donc je fais une terminale scientifique pour faire ces choses comme ça.
Ok.
Mais en fait, ce qui me plaisait pas, c'est de me dire que j'allais travailler 6-7 ans après le bac et pas gagner correctement ma vie, parce que j'avais cette dualité jeune entre dire, bon, ok, soit je fais de l'argent, soit je suis ce que j'aime faire.
Comment vous avez de l'argent dans ta tête à l'époque?
On monte une boîte.
C'était tout.
C'est tout.
On fait des choses illégales.
Non,
Non,
non.
je rigole.
Ouais, c'est pas. Non,
Non,
mais
mais en vrai,
vraiment, vraiment.
pour faire de l'argent rapidement,
Ouais.
la notion n'était pas de rentrer en CDI et d'avoir une
Ah non,
carrière
non,
pour
non, il
toi.
fallait que je monte une boîte. Mais en
Ok.
fait, je montais déjà des petits projets jeunes. En fait, a posteriori, je m'aperçois que déjà jeune, je montais des trucs, des choses très jeunes. Donc j'avais cette fibre
Raconte.
de... Non, 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 je raconte pas. Mais en fait,
Il y a
je me
des
dis,
dossiers là.
ouais, exactement. Mais je me dis, j'avais envie, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que bon, moi, en plus, j'ai pas fait d'école de co, tout ça. Donc je suis un self-made man, un
Un
pur.
autodidacte.
Ouais, c'est ça, autodidacte. J'ai appris tout sur le tas. Et moi, je dis tout le temps, tu vois, je dis à ma fille, enfin, apprends le maximum de choses en amont parce que ça te sert après, quoi. A posteriori, tu vois, vaut mieux apprendre le maximum possible avant, pendant que tu as le temps. Et
Ça ressemble.
tu as le temps de monter, tu as le temps de monter ou pas. Enfin, je veux dire, ça te sert.
Ça ressemble à quoi ta prise de décision post-bac, du coup, entre tes études et monter une première boîte? C'est. On comprend que t'es tiraillé, que tu veux vraiment, bon, j'ai cru comprendre faire quelque chose qui te plaît, mais faire des thunes aussi.
Ouais.
Comment ça se matérialise,
En fait,
pardon?
c'est super simple. Alors, déjà, moi, je suis d'une génération où tu montais pas une boîte sur un deck, tu vois, le web, tout ça, il n'y avait pas tant
Les
d'initiatives.
levées de
Ouais,
fonds.
exactement. C'était vraiment un autre univers. Ça paraît fou aujourd'hui, parce que c'est génial. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, il peut assez vite lever de la love money, commencer à tester son projet. C'est génial. Il peut se lancer assez facilement. De mon époque, en fait, c'était déjà un business assez physique. Tu vends quelque chose d'ultra concret, même si c'est sur Internet, tu vends aussi quelque chose. Ça peut être des services, n'importe quoi, mais tu as vite l'idée d'un magasin, de pas faire du business sur le web où il n'y a pas les cryptos, il n'y a pas toutes ces
La
choses-là, tu
notion
vois.
de tu donnes quelque chose et on prend de
Exactement.
l'argent,
Ouais, c'est
quoi.
ça.
Ouais, ok.
Donc, bah, c'est déjà dans quel secteur tu vas monter quelque chose. C'est pas évident, tu vois. Donc, moi, j'ai été hyper pragmatique. En fait, j'ai été regarder pour de vrai. Hein. Là où tu allais collecter des infos sur ton parcours, sur ce que tu voulais faire, les métiers qui rapportaient le plus. Pour de vrai, je te
Mais
jure,
c'est
j'avais regardé.
incroyable.
Non, mais
Mais tu
vraiment.
sais que dans le commun des mortels, on se dit pas qu'une boulange, ça gagne bien.
Mais je sais.
30 boulanges, oui,
Je
mais
sais.
une seule, on se dit pas que tu marges énormément, quoi.
Bah ouais, non, mais. Si. Et en plus, j'avais un boulanger qui était installé, qui était un ami de mon père. Tu vois, je lui ai parlé. J'avais, je sais pas, 18 balais, 17, 18 ans. Et on a parlé ensemble et je lui ai dit. Et je voulais aussi, je me souviens, un métier qui me permette d'être intemporel et de pas refaire des formations à 40 balais.
Dans quel... Ah, tu veux dire que le notre
ouais,
savoir-faire
en
va.
fait, avec la boulange, tu traverses ta carrière avec un métier qui est ultra pérenne, en fait. Il y a pas de c'est pas un secteur que tu vas disrupter en
Mais parce
soi.
que c'est notre patrimoine culturel, en gros,
Et parce que
concrètement?
tu peux pas imaginer qu'en 2050, tu vendras pas tout. Il y aura pas de boulangerie, c'est ça que je veux dire, c'est un
Ouais, mais on
business.
peut imaginer des boulanges véganes, pour le coup.
Oui, c'est ça, mais par contre, c'est des boulangeries. Donc c'est de
Ok.
l'adaptation plus que quelque chose qui va mourir. En
Ok, je
fait,
vois ce que tu
tu vois,
veux
pour le dire
dire.
simplement, tu vas pas te dire quand tu commences ça qu'un jour il y aura plus de boulange en France.
Non, mais c'est, en gros,
Voilà.
c'est, on revient, commerce de première nécessité,
C'est
comme si
ça.
on parlait de, je sais pas, de l'éducation ou de la santé, ça
Exactement.
reste des, ok.
C'est la médecine,
Et
tout ce qui est.
t'aimais bien dormir ou pas?
J'aimais bien dormir?
Mais ouais, enfin, boulanger.
Non,
Moi,
je.
j'adore dormir. Alors, je te cache pas que
Non.
4 heures du mat, pour aller faire
Ouais.
des pains et
Eh
des
ben non, moi
croissants.
je dormais pas beaucoup.
Ok.
Pendant très longtemps, j'ai pas dormi beaucoup. Genre
Ça
4-5 heures.
ressemble à quoi? Comment on monte une première boulangerie?
Bah
Quel
c'est.
est l'apport financier?
Ouais, c'est
Comment ça se
intéressant.
passe?
Donc, c'est très simple. Donc, d'abord, tu apprends ton métier. En parallèle de ça, il faut que tu penses à la masse d'argent dont tu as besoin pour ouvrir ton premier fonds de commerce.
Pour apprendre le métier, t'as fait une formation, t'as fait un...
J'ai été formé chez les Compagnons du Devoir. Le
Ok.
principe, c'est de voyager un an par ville et tu voyages en France et en Europe. C'est vachement fun si tu aimes voir du pays. Donc, moi, je suis rentré chez les Compagnons.
Et t'as le savoir-faire de plein de personnes
Ouais,
différentes.
exactement.
C'est top ça, ok.
T'as une vie un peu sociale, c'est assez intéressant. Et puis, bah, c'est pas que focus métier, t'apprends aussi la vie, puis mine de rien, parce que tu pars sur le tour, comme on dit, donc tu changes de ville chaque année. Donc il y a une vraie richesse aussi sociale, etc. Il n'y a pas qu'une richesse sur la capacité à apprendre son métier. Et donc quand tu veux monter un business, bien sûr, bah, tu penses aussi à l'argent. Alors comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que quelqu'un peut monter sans avoir des économies, aller chercher des sous pour monter sa première entité. Et avant, il n'y avait pas ces leviers-là. Tu sais, il n'y avait pas le crowdfunding, tous ces outils qui permettent à quelqu'un d'aller chercher des sous. Et donc, bah, tu dois économiser. Hein. Tu dois faire les choses sérieusement. Et moi, j'étais ultra. Donc, comme je viens d'un milieu populaire, j'économisais tout ce que je gagnais pour
T'avais la
acheter mon
valeur
premier.
de l'argent assez tôt?
Exactement. Et
Ouais.
pendant qu'il. Non, mais pour de vrai, le
Non, mais
mec, il
c'est top.
s'amusait et moi, je bossais comme un âne.
Et donc, du coup, quel âge? T'as quel âge quand tu montes ton top?
26.
Et
En fait,
tu.
dès que j'ai l'argent, je fais tapis, quoi.
Et c'est quoi le... Il vaut combien les tapis?
Du coup, en fait, quand tu commences avec un fonds de commerce, attention, je parle sous la responsabilité des banquiers, il faut que tu amènes à peu près une trentaine de pourcents, tu vois, du fonds de commerce que tu vas acheter.
Elle est où la première
Elle est
boulange?
56 rue de Clichy, dans le 9e à Paris.
Bon, ça... Ok, vers Pigalle?
Ouais, c'est ça.
Bon, ça vaut pas... Enfin, ça vaut quand même.
Mais en fait, c'est au prorata, le prix d'une boulangerie, c'est au prorata du chiffre d'affaires. Donc en fait, si une boulangerie fait, je sais pas, 1 million d'euros de chiffre, elle vaut approximativement entre 900 et 1 million 100.
Ok, entre 90 et 110,
Et
ok.
ça rejoint
Ouais,
les métriques de la finance parce que si tu fais 15% d'EBITDA fois 6, c'est à peu près le même prix.
je vois ce
Donc
que tu veux
ça colle à
dire.
peu près.
Donc du coup, tu te bases sur les exercices, et quand tu parles du fonds de commerce, c'est pas les murs, mais c'est la
Exactement.
possibilité d'opérer sur...
Exactement.
Ok. Ah, donc je savais pas du tout, mais c'est comme par exemple les licences d'alcool dans les bars, tu dois pouvoir racheter. Ok, d'accord.
Ouais.
Moi, demain, je peux pas créer une boulange comme
Si
ça.
tu peux, bien sûr, tu peux
Mais je dois
créer.
acheter un fonds de commerce
Non,
ou...
tu peux arriver et prendre un pas de porte, mais tu vas avoir deux problématiques. C'est le changement de bail qui t'autorise à faire de la boulangerie. Donc c'est un
Et
sujet.
l'équipement?
Et non, le deuxième, c'est l'extraction. C'est d'avoir des locaux qui te permettent
D'extraire?
d'extraire les buées de tes cuissons. Tu
Oui,
vois?
ok.
Donc en
Enfin,
fait, tu as des locaux
ok.
froids et des locaux
Donc,
qui te.
aménagement, en
Et
fait, de
voilà.
tes... Ok,
Donc
d'accord. Et c'est
tu
pour
as
ça.
plus de contraintes, en fait, tout
Ok.
simplement.
Donc, toi, il faisait 1 million ou pas de chiffre d'affaires?
Non, la boutique, la première que. Alors, c'est fou. C'est trop marrant parce que c'était la boutique où j'avais fait mon prestage avant de partir chez les Compagnons. C'était une boutique qui cartonnait. Il y avait genre 30,
Incroyable.
35 employés. Et je la retrouve 7-8 ans après, complètement effondrée, deux liquidations successives.
Ok.
Donc, un dossier difficile à faire passer en banque puisqu'elle avait un passif assez lourd. Et donc, toi, tu arrives même avec des sous et tout. Tu vois, les gens vont se dire, mais pourquoi toi ça va marcher alors qu'il y a eu deux. Enfin, il y a une liquidation et un redressement.
Qu'est-ce que tu leur as dit?
Je leur ai dit, ouais, je sais plus, j'ai dû
T'as
être
dit
convaincant.
t'inquiète.
J'ai dû être convaincant.
26
Mais en
ans,
fait, non, mais
j'ai...
donc je te dis, je la connaissais, je savais qu'elle avait super bien bossé. Et là, pour parler un petit peu retail, et en fait, c'est souvent des cycles. Et quand une boutique a bien bossé, où l'emplacement était bon, elle attend juste le bon manager pour repartir un peu, tu vois. Parce que
Ok.
l'emplacement est intrinsèquement bon.
Sauf que les chiffres étaient en berne, c'est
Du
ça, et
coup,
donc.
c'était plus ceux qui opéraient, les boss qui opéraient mal, plutôt que l'emplacement qui, de façon intrinsèque, n'était pas bon.
Mais donc du coup, en fait, t'as pu opérer dans une boulangerie, du coup sous-évaluée, si j'ai bien,
Non,
selon
du coup,
toi.
j'ai pu acheter une boutique qui, pour moi, avait un potentiel.
Oui, qui
Et en
était
fait,
moins valorisée que ce qu'elle vaut réellement.
voilà, et qui
Ok.
était dans mes cordes, accessible financièrement, puisque
Mais tu peux nous donner un chiffre ou une fourchette qu'on s'en rende compte. L'idée à travers ça, j'ai pas oublié les 30% d'apport, mais concrètement, tu dois arriver avec 300 000 euros
Non, du
ou
coup,
alors.
là, je te dis, elle faisait 350 000 euros de chiffre d'affaires.
Ouais, donc t'es
Donc,
arrivé,
moi, je
mais
suis arrivé, il me semble, j'avais 130, 120 ou
quand même,
130.
donc quand même,
Ouais, donc,
faut les avoir les 130 000.
ouais, j'avais 150, je crois, mais j'ai dû amener 130, un truc comme
Et le
ça, il me
reste t'as
semble.
pris au prix de la banque.
Et du coup, la banque m'a prêté le reste. Et en fait, et voilà. Et après, donc, t'es propriétaire du fonds de commerce, tu peux opérer, développer ton fonds de commerce, tout simplement.
J'ai une question à te poser, Rodolphe. 130 000 euros ou même 100 000 euros. Beaucoup de personnes te diraient de l'investir. Je pense à nos amis banquiers, mais plus sérieusement, à faire de la diversification. Toi, t'as
Oula.
choisi de faire all-in,
Ouais, j'ai fait tapis, ouais.
mais dans ton projet. Donc,
Ouais.
c'est comme si, moi, j'aime bien cette image, dis-moi si tu la comprends, mais
Ouais.
c'est de te dire que t'investis, mais que c'est comme si t'avais la possibilité de coacher ou de, enfin, d'avoir une influence directe sur le résultat.
Ouais.
La question, c'est pourquoi t'as mis 100% de tes billes dans la même chose?
Parce
Tu, c'est pas le plus
que
gros risque, in fine?
bah oui, c'est un risque, mais bah bien sûr que tu joues un peu, tu joues gros. Sur la première, enfin tout le monde le sait. Sur le début, c'est tu peux pas trop te planter. Tu perds trop de temps si tu te plantes. T'es blacklisté en France. Enfin, tu vois, on n'aime pas trop les gens qui sont à l'échec. Donc tu sais qu'il faut que ça fonctionne. Il n'y a pas de débat. T'es dos au mur, quoi. Tu vois, t'as des traites. Enfin, t'es lancé, quoi. Donc, mais si tu veux entreprendre, oui. Tu peux pas, enfin, si tu veux monter une boîte, il faut que, enfin, si tu sais que la création de valeur, c'est quand même via l'entreprise que tu vas la faire et que tu vas maximiser cette création de valeur, bah, tu, en fait, en plus, t'as rien à perdre. Enfin, t'as rien à perdre. T'as tes économies à perdre, mais quand tu te lances, t'as juste, le plus important quand tu te lances, quand t'es jeune, c'est le temps. Tu vois, t'as beaucoup de temps, t'as mis du temps pour économiser ça, donc, tu fais tapis, t'y vas, quoi, mais,
Mais excuse-moi, Rodolphe.
ouais.
En fait, j'ai l'impression que tu veux trouver des choses pragmatiques et qu'en même temps, t'arrives pas trop parce que la réalité, c'est que beaucoup les verraient comme du risque. Mais toi, dis-moi si je me trompe, c'était acté, sûr et certain que t'allais monter une boîte. Donc pour toi,
Ouais.
c'était même plus du risque, c'était la continuité de ce que tu voulais faire, en
Ouais,
fait.
de toute manière, c'était comme ça que je l'imaginais depuis que j'étais jeune. Donc, une fois que tu as la cible, tu y vas, tu te poses plus de questions. Ça fait longtemps que tu réfléchis à ça, de toute manière.
Et si on quantifie le risque, 100, 130K environ,
Ouais.
tu dois faire combien de CA la première année pour te dire que tu es sur la bonne route pour en tout cas pouvoir rembourser ton prêt, etc.
Ouais, si tu amènes 30% et en partant du postulat que tu développes pas énormément le chiffre, mais tu prends 20 ou 30%, ça va passer smooth
Si tu prends 20 ou 30% de
de chiffre
croissance,
d'affaires. Ouais,
quand
ouais.
même. Ok, donc s'ils étaient à 300, fallait que tu fasses 100 ou
Ouais.
plus environ. Ok.
Ouais, je veux dire, même à périmètre égal, franchement, vu que c'est quand même un apport significatif, tu passes derrière en remboursement banque sur les 7 ans.
C'est quoi la différence entre ce que tu pensais
Ouais.
et ce que tu as réellement fait la première année?
Du coup, en fait, nous, on a fait x3 la première année, il me semble, ou x4, je sais plus.
Donc c'était pas si dur?
Non, mais en fait, déjà, ça veut dire que l'emplacement était bon, mais surtout, t'es lancé, en fait. C'est vraiment ça qui est important.
Ok.
C'est que le premier move, il faut que ça soit un bon move. C'est ça qui te lance. Parce que finalement, tu l'as pas, t'achètes pas trop cher, tu fais x3, x4, x5. Donc, t'as un petit cred, t'es lancé. Donc, tu fais des bénéfices, tu gagnes de l'argent. Et tu lances l'entreprise pour de vrai, quoi. Imagine que ça patine, tu patauges, ça avance pas, tu perds du temps et tu peux pas faire développer ton enseigne, ton entreprise. Donc, le premier fonds de commerce, c'est vraiment important.
Il t'envoie quoi comme signal de faire x3 ou x4 la première année?
Qu'on est en adéquation avec le marché, que tu sais ce que les clients veulent, que finalement, ce que tu as intuité, bah, tu le vérifies parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc, tu apprends ton métier de retailer, de chef d'entreprise, que tu pilotes des mecs. Au début, tu pilotes pas beaucoup. On était 7, 8 au début, tu vois. Donc, tu apprends tout ce que tu n'apprends pas dans les écoles, finalement.
Ok. Le management, la
Ouais, enfin les choses,
communication, la
ouais, c'est ça,
gestion.
exactement.
C'est quoi, toi, à titre perso, ce que ça te fait ressentir? J'essaie de comprendre comment on passe de une à 30 et quelques boulangeries.
Donc moi, c'était très clair que je voulais développer l'enseigne, que j'avais des objectifs ambitieux, que c'était pas un fonds de commerce. Donc très rapidement, on gagne de l'argent et on prépare l'ouverture de la deuxième tout de
Ok.
suite.
Combien de temps après? Un an?
Ouais, mais 6 mois après, on commença déjà
Ah ouais,
réfléchir à chercher
ok.
le deuxième emplacement, à
Est-ce
8
que
mois
juste
après.
tu doutes à un moment, toi? Ou est-ce que ces 6 premiers mois t'ont renforcé l'idée qu'il y avait un potentiel
Ouais.
énorme? Est-ce que ça t'a renforcé l'idée que t'étais toi au bon endroit au bon moment, mais surtout que t'étais la bonne personne pour faire tout ça? Ou est-ce que sur cette partie-là, en fait, t'as jamais réellement douté c'était
Bah, en
pris
fait,
pour acquis?
si ça fonctionne et que tu gagnes de l'argent, tu vois ton compte en banque qui se passe bien, enfin que tu fais du cash, forcément tu prends confiance en toi, enfin tu prends confiance en toi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ça accélère ce que tu avais en tête, mais tu
Ok.
vas pas dire aux gens oui, moi je vais en monter 10, 20, 30 parce que c'est hyper prétentieux. Tu l'as au fond de toi, tu le
Au fond
gardes
de
pour
toi, tu
toi.
l'as, ok.
Déjà, réussir la première installation, c'est la plus importante. C'est quand même beaucoup d'années de travail. Parce que n'importe qui, en fait, doit passer par ou cette formation scolaire ou cette formation pro, peu importe. Mais tu dois apprendre des choses avant d'ouvrir ton premier business.
Et prendre ton risque
Et
à
prendre ton
100 000,
risque.
130 000,
Exactement,
ok.
c'est ça, c'est ça. Et après, oui, ça donne confiance. Il y a pas, enfin, c'est sûr que quand ça fonctionne, tu prends confiance en toi. Il n'y a pas de débat.
Deuxième boulange, donc au bout de 6-8 mois, vous commencez à regarder. On
Ouais.
va pas les faire de 2 à
Ouais,
30 et
s'il te
quelques.
plaît.
Je pourrais en vrai. Mais comment ça se matérialise d'un point de vue business? Comment tu montes une deuxième une fois que tu as un commerce qui marche bien? Est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que tu te poses des questions de culture d'entreprise, de d'image de marque, de tout ça, où tu vas all-in et tu vas apprendre au
Ouais,
fur et
moi
à
en plus,
mesure?
comme je te le dis, j'avais pas de formation universitaire sur la théorie, sur la façon dont tu fais du business. Donc en
Ouais,
fait,
pas la boulange, mais le business, quoi.
en général, comment tu
Ouais,
structures une équipe, comment tu structures les fonctions support, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de, c'est bien de faire ces formations-là en amont, même si c'est que de la théorie et que tu vas te prendre des claques quand tu vas monter ça. Tu vas pouvoir repiocher dans ces sujets un peu théoriques
ok.
et peut-être t'aider à décortiquer des sujets. Que toi tu vas devoir apprendre de façon empirique sur le tas. Et donc moi j'ai dû les apprendre comme un grand garçon tout seul.
Ok.
Tu vois?
Et justement, du coup, c'est.
Tu fais que des conneries, je cherche pas.
Raconte, c'est quoi les codes? C'est quoi les plus gros apprentissages, on va le dire comme ça?
Mais en fait tu fais que de la merde. Mais sauf que la différence c'est que, un, il faut que tu te rends compte que tu fais de la merde, et deux, tu corriges, et trois, tu dis t'inquiète pas,
Mauvais recrutement, tu
Non,
dirais?
mais en fait,
Mauvais
tu peux.
process?
Je connais pas un mec autour de moi qui a pas fait les mêmes conneries et qui. Enfin, c'est unanime.
Mais
C'est
c'est quoi les
obligatoire.
conneries 101? C'est quoi les
Mais
conneries
les.
basiques d'une boulangerie?
Non, mais pas les conneries d'une boulangerie, mais les
Ou d'un
conneries
business, ouais.
de. Les conneries. Tu apprends quelque chose du nouveau et c'est un one shot. Tu l'as pas appris, t'as pas fait des itérations pour bien l'apprendre. Tu apprends au fil de l'eau. Quelque
Ok.
chose, n'importe qui. Monte sa boîte et apprend tout au fil de l'eau. C'est impossible de faire bien en une fois quelque chose que tu apprends au fil de l'eau. C'est impossible, même si tu connais les choses théoriques.
Donc
Et
c'est du gut feel.
donc te planter sur les mecs que tu recrutes, enfin, la finance, la stratégie, enfin tout, tu es obligé de prendre des petits murs et après de corriger vite, quoi, tu vois, de t'adapter. Je pense qu'en fait, c'est ça, c'est le mec qui. Enfin, ce que je me rends compte, c'est vraiment ça, c'est les mecs qui s'adaptent très très vite, qui s'en foutent de se planter, donc ont pas d'ego,
Là, tu
et
parles
qui se disent
d'entrepreneur, hein.
ouais, mais
Ouais.
quand tu vois, parce qu'en
Qui
fait,
arrive.
ceux qui arrivent pas, ils restent dans leur conviction, même si c'est pas bon, parce qu'ils veulent pas avoir tort, etc. Puis finalement, le gars, il itère sans arrêt, et en fait, il se transforme mutuellement. Moi, ce que je me disais tout le temps, c'est ok, comment moi maintenant je peux servir la boîte au mieux? Parce qu'au début, je suis en prod, il y a cette personne. T'ouvres la
Ensuite.
deuxième, tu vas devoir déjà piloter deux équipes, donc tu es un peu moins en prod. Tu peux être le sapeur-pompier, mais un peu moins. Donc tu vas devoir piloter des gens un peu plus. Et au fur et à mesure, tu pilotes de plus en plus sur un tableau de bord.
Mais j'allais te dire, quand tu dis tableau de bord, donc c'est du coup derrière c'est ouverture de plusieurs
Oui.
boulangeries, j'imagine vous en avez ouvert plusieurs même en même temps,
Oui.
c'est staffing, c'est
C'est ça.
retransmission de la culture. Est-ce que, donc ça je comprends bien, juste déjà avant ça, est-ce que tu t'es chié sur des produits, sur des pricing, sur une stratégie de marketing? Si je te pose la question, parce que j'ai bien compris, la
Ouais.
théorie c'est quelque chose et je suis grave, je bois tes paroles, j'ai jamais plus appris en faisant des erreurs, parce qu'au
Ouais.
bout d'un moment tu comprends l'importance de la théorie. C'est comme un conseil, il vaut rien si tu le mets pas en application, que tu t'es pas trompé pour vraiment comprendre. Mais donc du coup, si tout ça est pris pour acquis, c'est où les pro... Donc, quand je parle de prix pour acquis, c'est toi, ta capacité à exécuter, etc. Quelles sont, ouais, les peut-être les problématiques d'un point de vue, là, on parlait de... On va revenir sur ton triptyque, sur pourquoi pourquoi, pardon, Maison Lendemain marche, et donc, comment t'en es arrivé là? C'est plus ça qui me... Pas très bien formulé, longue question, désolé.
Non, je
Quelle
t'en
est la
prie.
frontière entre j'en crée une et j'en crée 35? Comment tu passes à l'étape supérieure? Comment tu valides le socle? Pour
Ouais, je
ensuite
comprends.
construire dessus.
La première chose, et que finalement peu ont, c'est d'avoir une vision ultra claire de ce que tu es
Ouais.
intrinsèquement, et donc de la façon dont tu vas faire croître ce réseau-là, parce que tu sais qui tu es. Ça veut dire, tu sais quelle est cette marque, où elle doit être, quel type de client elle sert, à quel
Vision
prix.
claire.
Ouais,
Ok.
ça te guide. Enfin, si tu l'as pas, c'est compliqué parce que tu tournicotes, tu tournes en rond, c'est pas très clair et en fait tu donnes pas un cap parce qu'au fur et à mesure que ça avance, finalement, s'il y a un cap extrêmement clair dans ta tête, tu sais le dire à tes N-1, tu sais expliquer la strat d'une façon ultra simple à ceux qui bossent avec toi et donc tout le monde est aligné sur ce scénario. Donc ça, déjà, tu vois, t'emmènes tout le monde sur quelque chose qui est ultra clair parce que finalement tu t'es pas là en train de diffuser de targeter des choses qui sont pas en lien avec ta marque. Et donc ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire, c'est vraiment la vision claire de la façon dont tu veux développer ton enseigne. Et c'est pas si évident, en fait, finalement. C'est pas si simple.
Mais tu mets un chiffre, hein, ou en termes du nombre tu vois, de boulangeries que tu vas avoir à plus 5 ans, à plus 10 ans.
Tu te mets des objectifs. Alors moi, comme j'ai pas d'actionnaire, donc, tu es obligé de tenir compte, en fait, de les respirations de l'entreprise, c'est-à-dire ton niveau de dette, etc. Donc, de temps en temps, tu vas être agressif et tu fais de la croissance parce que tu peux te le permettre parce que
Un petit peu de trésor.
ouais, tu as de la trésorerie et puis aussi, tu as tes métriques qui sont bons, ta dette par
Voyants sont
rapport à
au
ton
vert.
chiffre. Exactement. Donc, tu peux pusher. Donc là, tu es en mode croissance externe et tu es en mode je cherche des cibles pour faire de la croissance externe. Et de
Donc là,
temps
tu
en
parles
temps,
d'ouvrir des boulanges.
exactement. Et de temps en temps, tu vas réorganiser le groupe, désendetter, et voilà. Et donc, ces temps de pause qui sont pas mis sur la croissance externe, elles sont dédiées à la réorganisation de ta boîte à la taille où elle est maintenant.
Pour passer à l'étape supérieure.
Exactement.
C'est
Pour passer
hyper...
à l'étape
On
suivante.
parle de croissance saine, en fait. La
Ouais.
croissance, c'est pas ça. C'est en fait
Ouais,
par
c'est des plateaux.
escalier.
C'est des
Ouais,
plateaux.
ok.
Ouais, c'est des plateaux.
Donc
C'est
c'est,
pas
tu prends
une.
une marche. Tu
Ouais.
stagnes un peu, tu t'assures que
Exactement.
tout est nickel et
C'est
ensuite
ça.
tu peux rescaler, ok.
Et tu prépares les équipes pour le prochain objectif. Donc tu vas recruter les mecs dont tu as besoin. Tu vas bien, tu vois, tu vas préparer ta team vraiment en disant, bon, je recrute même peut-être un peu plus de profils ou d'autres profils que tu auras besoin dans quelques années en amont, potentiellement, parce que tu vas aller chercher ça.
Tu le fais à quel moment? Tu le fais pas auprès de la première boulangerie en te disant je recrute les premiers là? Avec
Non.
le visu que dans 3 ans on a 4 boulangeries
Non,
et qu'ils vont les ouvrir.
tu le fais au fur et à mesure des strates que tu passes et des besoins que tu as. Des besoins et des objectifs. D'abord les besoins aussi, parce que tu as changé et donc tu as besoin de nouveaux profils. Un DAF, je sais pas moi, directeur des ressources humaines, enfin les trucs classiques. Donc c'est lesquels
Structuration.
j'ai besoin en premier, tu vois. Je fais rentrer les bons éléments qui collent à la team et lesquels dont j'ai besoin pour la prochaine étape.
Je sais pas si tu l'as bien noté. Bon, on a dit que c'était du coup hein, accessible
Ouais.
en termes de prix,
Ouais, premium accessible, ouais.
premium, donc c'est plutôt sur la qualité des produits.
Ouais.
Et il y avait un troisième point, je crois, dans le truc. Ah, et bon emplacement, du coup.
Oui, bah ça c'est classique pour tous les retailers,
Oui,
n'importe
mais
quel.
enfin par rapport aux gens que tu ciblais. Donc là, on était à République.
Ouais.
Si je vais là-dessus, c'est en fait la question est simple. À quel moment t'es rassasié? À quel moment c'est
Ah, c'est une
assez?
bonne question. Mais je pense que ceux qui continuent à pusher. C'est pas un sujet que de croissance de valeur, C'est un sujet qui est lié à leur ADN. C'est-à-dire que t'en as qui vont conquérir des pays, t'en as qui vont conquérir l'Europe, t'en as qui vont conquérir le monde, tu vois.
C'est des valeurs, mais pas financières. Ça reste de l'impact, mais pas forcément financier.
Ouais, tu vois, t'en as qui vont vouloir être un duc, un baron, un roi, tu vois, il y en a qui vont partir à l'abordage du monde. Tu vois, ça dépend des profils, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que ton objectif était d'être riche? Et est-ce qu'on peut dire qu'avant même d'ouvrir Tokyo, t'étais riche?
Oui.
Ok. Pourquoi t'as ouvert Tokyo?
Parce que ma femme, c'est simple, ma femme est japonaise, donc tu vois déjà.
Ok. Tu vas souvent là-bas.
J'allais souvent là-bas, c'est vrai. Et il se trouve qu'on avait une école de boulangerie-pâtisserie qui fonctionnait super bien. Parce que quand on allait là-bas pour des raisons familiales, on s'ennuyait un peu.
Donc
et on a dit, on a monté une école.
Incroyable.
Et après, on a eu pas mal de prix à Paris et on a eu des gens qui nous ont proposé des opportunités exceptionnelles de pouvoir ouvrir des boulangeries. Au départ, je voulais pas, mais en fait, ils nous ont proposé des conditions qui étaient top parce qu'ils aimaient bien la marque.
Mini parenthèse, est-ce qu'il y a rien de plus dur que de monter ta première boulangerie? Est-ce que tout il y a plus dur quand même?
Ah non, tu veux dire qu'est-ce qui est plus dur par rapport à un...
J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu ouvres ta première boulangerie, en tout cas dans ce que tu me dis, et que ça marche, tout est fait d'opportunités derrière. Mais c'est pas des problèmes. Tu te dis pas est-ce que je suis capable ou pas. Tu te dis ah ça peut être intéressant. Ah je m'ennuie avec ma femme au Japon. Ouvrons une école. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je sais pas si tu partages ça ou pas.
Si. Ne pas saisir les opportunités. Alors là c'est une énorme erreur. Enfin il y a pas de débat.
Mais il faut avoir un mindset.
Ouais c'est ça. Exactement. Enfin, tu vois les trains qui passent et tu montes jamais dedans. Il se passera jamais rien. Donc en fait des fois il y a des. Moi c'est toujours ce que je dis même à mes cadres. C'est il y a des trains qui passent, des fois c'est des trains pourris, mais si tu montes jamais dans les trains pour voir ce qui se passe, donc c'est des opportunités de marché, des opportunités de vie, ça peut être des rencontres ou du business ou quoi que ce soit. Là en l'occurrence, le Japon, il y a quelqu'un qui adorait la marque, qui avait 30 buildings, qui m'a payé les Renault et qui a dit tu te mets là, je veux que tu sois là. En fait, on mettait les pieds sous la porte avec une boutique neuve, on a dit ok, on y va. Donc tu vois, ça c'est typiquement une opportunité de rentrer sur le marché japonais qui nous a été donnée. T'aurais pu dire non, on a dit oui. Puis après, on a développé un petit peu l'enseigne là-bas. On pourrait en faire plus si on pushait.
Donc, d'où l'humilité. Et j'allais dire aussi, c'est être capable de négliger personne et en même temps de rebattre les cartes. Tout à l'heure, tu parlais de strat, mais ta strat, elle change tous les 3 mois, en fait.
Exactement. Exactement.
Et c'est ça qui t'anime, de tous les jours te dire, il peut se passer une dinguerie.
Moi, je pense que les mecs, ils cherchent c'est des aventuriers qui cherchent à vivre une vie intense. Mais qui sont beaucoup plus réfléchis que ce qu'on pense. Tu sais, ils nous qualifient d'artistes, de machin, de chaque fois, tu vois. On est souvent beaucoup plus prudents que ce que les gens pensent. Et c'est des pas, enfin, il y a, de l'extérieur, t'as l'impression que c'est feu follet. Mais en fait, c'est beaucoup plus posé, maturé que ce que les gens pensent. Non, ça veut dire que tes moves, parce qu'en fait, les opportunités de marché, des fois, tu vas très vite, il se passe des choses, boum, boum, boum. Et les gens disent, ouais, putain, on n'a pas fait ça dans les BP, machin, qu'est-ce qu'il nous fait le boss? Mais en fin de compte, c'est des moves qui sont pesés, sous-pesés, c'est ça, je veux dire. Tu mets pas en risque la boîte entièrement quand tu vas faire des moves et que tu es lancé.
Bien sûr.
Tu te mets en risque, mais un risque qui est pesé et sous-pesé.
Et est-ce que, même si dans ça, on parle pesé, sous-pesé, j'ai presque l'impression qu'il y a du pragmatisme, est-ce que par moment, on parle d'intuition, on parle de tout ça enrichi par tous les trains dans lesquels tu rentres, mais que tu vas pas prendre au final, enfin que tu prends, mais tu vas sortir à la prochaine gare. On va arrêter avec ces métaphores, mais est-ce que ça nourrit ton gut feeling? Est-ce qu'il y a des décisions que tu prends et tu saurais pas l'expliquer?
Bien sûr, et c'est celles qui m'ont fait gagner le plus d'argent et c'est celles qui ont permis de twister le groupe le plus fortement quand c'était pas des tableaux croisés dynamiques.
Et qui t'anime le plus ou pas?
Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus fort. C'est ça la différence.
Ta vie est un jeu.
Aujourd'hui.
À part ta fille, c'est ça, t'as une fille.
J'ai une fille.
Apparaît le risque au quotidien, tu le vois dans quoi, toi?
Je suis pas un gambler ou tu vois, je vais pas. Non, il y a pas de choses comme ça à côté dans ma.
Quand je disais risque, c'est plus négatif, mais en mode. Que tu pourrais perdre ou est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce que au contraire t'es très optimiste, positif?
Ça dépend des sujets.
Bon, ça va, t'es de bonne humeur, là.
Ouais, ouais. Il y a des sujets, je suis optimiste, il y a des sujets un peu moins. Enfin, je pense que tu te bats contre toi-même à essayer de positiver et être optimiste sur les sujets qui sont un peu anxiogènes. Sur le côté business, en fait, non, j'ai jamais été anxieux ou pessimiste. Vraiment, vraiment, vraiment jamais. C'est pas mon mindset. Sur d'autres sujets un peu plus contemporains, oui.
Okay.
D'ailleurs, c'est pas ma nature profonde, mais pour le coup, c'est un peu. Il y a des sujets qui m'animent beaucoup. Mais sur le sujet biz, non, je suis optimiste. Ouais. Sinon, tu fais pas ça.
On va rentrer dans ce qui t'anime, justement, parce que je pense que c'est encore un plateau que t'as atteint pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Tu me vois venir, mais. Typiquement, vouloir créer des œufs à partir de plantes, du coup, c'est ça ?
Ouais, c'est des protéines végétales.
Des protéines végétales. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé, opportunité, et très vite ça a germé dans ta tête ? Ou est-ce que, au contraire, et est-ce que même si c'est le cas, qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Il y avait combien de boulangeries déjà ? Donc, c'était il y a 4 ans ?
Ouais.
Vous étiez à combien de boulanges, là ?
Il y avait 25 maisons lendemain, il me semble.
Donc, il y en a 10 qui sont montés entre-temps, mais 25, c'était une taille critique pour toi. Est-ce que ton quotidien était trop... tu vois c'était...
Ouais, trop chiant.
Ouais, je cherchais de nouveaux challenges.
C'est possible. Non, en fait, moi, quand j'ai adopté ce régime végétalien, il y a 10 ans, j'ai adopté un régime vegan. Il s'est posé beaucoup de sujets, beaucoup de questions à moi. C'était un vrai changement de paradigme pour moi. Et en fait, la porte d'entrée sur ces sujets, tu sais, éco, elle est rentrée par la porte du véganisme où j'ai découvert tous ces sujets de ressources planétaires, limites planétaires, climate change, collapse de la biodiversité, tous ces sujets-là.
Ça, c'est que du perso, rien à voir avec le business.
Exactement, mais ça a fait évoluer ma conception des affaires. Et c'est ça que je veux dire. Parce qu'avant, j'étais focus sur, je crois, de la valeur. Je suis un businessman, point final. Je fais
la valeur,
affaires.
C'est de l'argent.
Et après, je découvre ces sujets-là et je dis, ouais, là, il y a un sérieux problème, tu vois. Et donc, je commence à décortiquer tout ça, à me rendre compte que l'assiette, c'est prépondérant dans les gestes citoyens, que c'est un vrai sujet, la façon dont les gens se restaurent, et que moi, j'appartiens à cette branche qui est prépondérante, puisque la moitié des gestes éco-citoyens, pratiquement, c'est l'assiette. Et donc, je me dis que j'ai aussi, moi, un rôle en tant que citoyen, bien sûr, puisque j'adopte un régime végétal, mais en tant qu'entrepreneur, de porter des sujets qui sont en lien avec ces sujets de transition alimentaire. Et c'est là qu'on parle tout à l'heure d'intuition, aussi de créativité, etc. Et me vient l'idée de faire bifurquer l'entreprise vers ces sujets de transition alimentaire avec plus de végétal, avec cette idée saugrenue à la base de monter une boulangerie-pâtisserie 100% végane. Et donc, pour répondre à ta question, c'est en travaillant sur cette idée-là que je m'aperçois qu'il y a un vide sur les œufs, qu'il y a des...
La techno n'existe pas.
Non, il y a rien qui existe qui facilite le chef qui va vouloir créer des recettes végétales. Et donc une idée, une boîte, hein, c'est un peu ça. Donc je dis, bah, je réunis des ingénieurs agro et on bosse. Enfin, je leur dis, est-ce que tu penses que c'est envisageable ? Et il me dit, et voilà, donc on monte une entreprise, on fait 3 ans de recherche et développement.
Comment tu vas chercher ces ingénieurs agro ?
J'avais bossé sur un bouquin avec une ingénieure agro. Et c'est elle que j'étais voir en lui disant bon écoute j'ai envie de monter un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit ouais, il existe des choses qui fonctionnent, etc. Et donc comme elle avait sa boîte et moi la mienne, on s'est mis en recherche d'un CEO, de quelqu'un qui allait tracter la boîte. Et donc après on a monté cette entreprise et on s'est avec pour mission de créer une solution aux œufs, une solution végétale aux œufs. Voilà, donc
elle est pas exclusive à Maison Lendemain. Demain
Non, elle n'est pas exclusive. On la commercialise. On est dans 12 pays maintenant.
Okay.
On est à une dizaine de collaborateurs.
Okay.
Je te disais, on est en série A pour continuer à faire croître l'entreprise. Donc, une start-up, c'est une idée. D'abord, une idée. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur les affaires. Parce que moi, je faisais des affaires de façon assez, entre guillemets, basique.
Bah, j'allais te dire, tu vois une différence avec là, aujourd'hui la start-up. Ouais, là,
tu pars d'une idée.
Tu préfères ou pas? Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais
idée. Ce que j'aime pas dans le monde de la startup, c'est que espèce de jargon et d'entre-soi.
C'est toi qui as dû disrupter au début.
Ouais, c'est ça. Moi. Mais en fait, les mecs, ils sont omnubilés par la levée de fonds. T'as l'impression qu'une boîte tourne par la levée
finalité,
de fonds. C'est une finalité dans leur business. Et moi, j'investis dans des boîtes aussi, mais je leur dis, mais mec, si t'as pas besoin de lever des fonds, lève pas des fonds. Arrête de vouloir lever des fonds, tu vois.
Ça te fait chier là de lever des fonds.
Mais non, c'est pas ça, c'est que des fois t'en as besoin. Mais en fait, les gars, Maintenant, tu regardes les entrepreneurs,
c'est un moyen,
ils se mettent tout de suite en mode levée de fonds. Donc, en fait, ils donnent du capital trop rapidement. Beaucoup trop rapidement.
C'est le plus important pour toi, le capital?
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, si t'as une vision long terme, une croissance, elle est exponentielle. Donc, ton premier million d'euros, c'est 10 ans pour le faire. Mais nous, on est passé de 40 à 50 en un an. Donc, c'est un croisement, un développement, c'est exponentiel. Donc, si t'es patient, tu vas y gagner dans le long terme à être patient et à faire croître ta boîte en ayant une vision long terme. Et comme eux, ils veulent faire levée de fonds, exit, parce que c'est ça leur truc. Mmh. C'est cool quand ça marche bien et que c'est de la tech et que ça se développe super vite. Mais déjà, en termes de stats, c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent à vraiment faire ça. C'est moins de 5%. Et parfois,
enfin, de ceux qui lèvent peut-être, ouais.
Voilà.
Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent, mais ouais.
Moi, je suis peut-être un peu plus vieux, mais par contre, j'ai une vision de l'entreprise plus à long terme et pas de faire lever, exit.
Bah, donc, du coup, pas d'exit dans tout ça pour toi?
C'est pas ça, c'est que...
C'est quoi l'objectif, si tu veux nous expliquer un petit peu à travers
ça? Bah, déjà, moi, je suis aux manettes de maison, du groupe depuis 16 ans. Donc, déjà, c'est long dans le milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Les mecs, ils font, des fois, ils font un exit en 5, 7, 8 ans, tu vois, ils vont très vite.
Mais si on décorait le Maison Landman et justement, j'ai oublié le nom, je suis désolé.
Lionel Monkeys? La boulangerie? Yumgo? La startup? Yumgo.
Yum pour yummy, yummy et go pour?
Tamago, c'était sûr.
Tamago, c'est ce que tu Yumgo. M'as dit tout à l'heure. Mince, j'ai pas la meilleure des mémoires. Passons donc. Yumgo, ouais, c'est ça, faut l'afficher. Et oui, juste comprendre. Si tu sépares de Maison Landman, ouais. Est-ce que t'as un... Ou en fait, c'est pas séparé pour toi concrètement? Est-ce que c'est séparé du groupe?
Si, c'est séparé. Tout est des initiatives.
Tu pourrais le revendre demain à 100% et quand même t'approvisionner auprès de...
Oui, bien sûr.
Ok.
C'est séparé.
Donc c'est une strat différente.
C'est une strat différente.
T'as une vocation à la revendre?
Bah, déjà, t'es pas seul aux manettes. Donc c'est un espèce de consensus un peu différent. Puisqu'en fait, là, pour le coup, tu apprends. Moi, je suis le boss des autres boîtes que j'ai montées. Mm-hmm. Là, j'ai un cofondateur. Donc c'est pas la même chose déjà. Quand tu montes une boîte à deux, j'ai appris à apprendre à faire plus de consensus. Quand t'es tout seul aux manettes, tu dis ça va être à gauche, et tu vois.
T'es là, autant impliqué, mais tu sens que t'as moins la main.
C'est pas autant la main, c'est que si c'est pas la bonne personne, franchement c'est difficile d'opérer puisque tu as une team. Tu vois, c'est pas les mêmes.
Mais même le pouvoir décisionnel, si j'ai bien compris, il est pas que dans tes mains, il est aussi dans ce cofondateur. Qu'est-ce que ça
implique
pour toi par rapport aux autres expériences que tu as eues?
Moi, c'est ce que je te dis, toutes ces expériences pour moi elles me font progresser en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur. Donc en fait ça, j'adore me mettre dans une situation qui est inconfortable parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Et donc là toutes ces choses là qu'on apprend avec la startup, espèce de consensus, de partager la décision, de lever des fonds, etc., d'avoir des actionnaires au board, un board, des choses comme ça. C'est des choses qui sont ultra, qui sont nouvelles pour moi, et donc qui demandent une autre, pas d'autres aptitudes, mais un autre comportement, une autre façon de faire.
Sauf que après presque une heure de conversation, j'ai du mal à croire que le statu quo est quelque chose qui te ressemble, cher Rodolphe.
C'est vrai.
C'est quoi la suite? Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des limites, que ça soit une start-up, que ça soit une boulangerie. D'ailleurs, vous l'avez créée ou pas encore, la boulangerie full vegan?
Oui, bien sûr, il y a 6 établissements à Paris.
Allez visiter, chers amis.
L'année de Monkeys.
Mais c'est quoi les next steps? Concrètement, je sais qu'il va y avoir des... Quand je dis des limites, c'est qu'on change tout, c'est qu'il y a un moment, tu vas te réveiller un matin avec une envie. Est-ce que cette envie, tu sais déjà ce que c'est ou pas encore?
Non, moi, en tout cas, j'ai sûr et certain, c'est que j'ai envie d'entreprendre différemment et je mêle beaucoup la philanthropie à mes entreprises puisque j'ai cédé une partie du capital de mes holdings à un fonds de notation.
Ok.
Donc, ça s'appelle les fondations actionnaires. Et en fait, je trouve ça super cool parce que c'est un outil qui te permet de réconcilier la création de valeur et le bien commun. Donc, c'est en gros, hein, tu files un pourcentage de tes holdings à un fonds de notation. Quand tu distribues des dividendes à hauteur des titres qu'il détient, il prend ce réservoir d'argent. Il a sa propre mission qui est du bien commun puisque c'est un fonds de notation, c'est comme une association. Mmh. Et donc, tu amendes une partie de ta création de valeur qui va pour le bien commun. Donc ça m'anime énormément. Nous, ce qu'on fait, la mission du fonds de dotation, c'est protéger le vivant, parce que je suis j'ai voulu faire de l'éthologie, je suis très sensible à la cause animale, je suis végétalien, etc.
Tu l'as pas oublié ça.
Ouais,
depuis
exactement.
Tes 18 ans. Non,
exactement.
Mais c'est beau ça.
En fait, je pense que tu reviens vraiment à tes premiers amours. C'est pas forcément le pain en fait.
Pas un vegan au moins.
Mais... Moi, je suis ultra anxieux et traumatisé par la non prise de conscience du collapse qu'il y a sur la biodiversité par les masses, par les élus, par ceux qui sont manettes.
On n'est pas encore assez conscient en France.
Ah non, mais pas en France, mondialement, c'est juste fou ce qui est en train de se passer. Et on continue business as usual, comme si de rien n'était, alors que on scie la branche sur laquelle on est assis. Il n'y a pas de débat là-dessus.
T'as un message alarmant, entre guillemets, que t'aimerais faire passer là-dessus.
Les bouquins que je lis qui sont juste dingues, en fait. Et c'est ouf que ça passe pas dans les médias mainstream, que ça devrait passer en boucle partout, parce que t'as des effondrements d'arthropodes, d'amphibiens, de mammifères qui sont à l'échelle d'une vie humaine folle, en termes de pourcentage de vivants qui disparaissent. J'ai lu l'autre fois que les espèces disparaissent 1000 à 10 000 fois plus rapidement que la normale.
Ouais. Donc
1000
c'est qu'on
à
a...
10 000 fois.
En tant qu'humain, on a une incidence
ouais,
pas
ça.
Très bonne sur notre
écosystème. Mais en fait, c'est que des raisons anthropiques. C'est que des... les raisons, c'est la destruction de leurs habitats, trop consommer de viande parce que ça demande trop d'espace, trop de ressources pour pouvoir nourrir ces animaux-là. En fait, l'équation, elle fonctionne pas. Et le climate change, bien sûr, mais la chimie, en fait. Toute la chimie, en fait. La chimie, c'est le pire. C'est d'abord la chimie, la destruction des habitats et notre façon d'habiter l'espace, notre façon de sans cesse être prégnant sur les espaces et qu'ils ont juste pas, en fait, d'endroit pour pouvoir vivre, tout simplement.
Donc, en fait, toi, si j'ai bien compris, parce que là, on parle même pas de bouffe, hein.
Ouais.
Bon, en fait, c'est que à travers la boulangerie, tu vas pouvoir servir toutes ces autres.
Ouais,
c'est pas
exactement.
Juste le côté
exactement.
Vegan.
Et nous, ce qu'on fait avec donc ce fonds de dotation, c'est qu'on achète des terres,
ouais.
Qu'on laisse en libre évolution. On fait du rewilding, ça s'appelle. C'est passionnant. En fait, le principe, c'est de rendre à la nature les clés et de lui laisser complètement les écosystèmes se refaire.
Et voir
la laisser se régénérer et de voir ce qui se passe et faire des audits pour voir si ça fonctionne. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des centaines d'hectares. Et on fait comme Yellowstone aux États-Unis, c'est qu'en gros, on laisse complètement la nature aller en libre évolution et on audite ça avec des naturalistes et des scientifiques pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est la bonne nouvelle. Et donc, en fait, on a des leviers aujourd'hui incroyables qu'on n'actionne pas et qui pourraient permettre d'endiguer, en fait, dans les mers et sur les terres, ces effondrements de ce collapse de la biodiversité, quoi.
C'est où? Et est-ce que vous comptez les exploiter au bout d'un moment?
Non, jamais exploiter, ça c'est sûr.
Alors, pas exploiter, mais est-ce qu'il y a des choses qui poussent sur lesquelles on pourrait ne serait-ce que récupérer? Non, des matières premières ou autre.
Non, justement, c'est vraiment, en fait, aucune activité anthropique sur le site. C'est pas d'activité.
Donc c'est philanthropie,
ouais.
Okay.
Pas de sylviculture, il n'y a pas de coupe de bois, il n'y a pas d'activité cynégétique, c'est-à-dire pas de chasse, pas de pêche, des choses comme ça. Il n'y a pas la volonté d'organiser les biotopes. Donc on laisse tout aller en libre évolution, comme donc c'est le sauvage, la nature telle qu'elle s'organise elle-même avec toute sa complexité et sa beauté.
Ouais.
Et on audite ça et en fait on fait ça sur 200 hectares en Normandie, mais on mène d'autres projets à l'échelle nationale où on va continuer à mener des projets comme ça. Et surtout on se sert de ce projet très pédagogique pour faire venir des entrepreneurs, des élus et on leur montre ce qu'on fait pour leur dire en fait regardez ça fonctionne pour qu'ils fassent la même chose.
Tu te sens responsable et si oui, de quoi?
Je me sens responsable de filer une planète vivable aux générations futures.
Ça, pas qu'à ta fille. Hein.
Ouais, exactement.
De la génération de ta
exactement.
Fille et celle qui... Ok.
En fait, moi, je me dis qu'en tant que citoyen et d'entrepreneur, je veux absolument pouvoir me dire j'ai pas fait l'autruche, j'ai pris
mes
responsabilités.
J'allais dire ça, tu veux faire plus que la moyenne, mais en fait, c'est plus que la moyenne. Là. C'est faire partie des top 1% qui vont... laisser une empreinte positive sur notre planète.
Bah tenter quoi. Et surtout d'inspirer des jeunes entrepreneurs. Parce que moi, j'ai cédé un pourcentage des titres qui va graduellement monter au capital. C'est-à-dire que c'est un don, c'est du leg. Donc tu te déshérites d'une partie de ta valeur.
Et il y a un
au
côté
profit d'autre chose.
Vertueux, non, que tu veux créer, il y a l'effet boule de neige, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, et puis
en inspirant,
exactement.
En exemple.
On fait partie du, moi je fais partie d'une association où il y a d'autres entrepreneurs qui ont fait la même chose. On est quelques dizaines en France à avoir cédé une partie des titres à un fonds de dotation pour des raisons diverses, chacun à sa sensibilité, et on prône via cette association qui s'appelle De Facto les fondations actionnaires qui permettraient de verser ce fameux dividende écologique dont parle la MIF, que j'aime beaucoup, c'est de se dire 10 ou 20% des boîtes, enfin de la création de valeur des boîtes, pourraient aller vers des activités philanthropiques qui permettraient de réparer et régénérer les dégâts qu'on a fait. Parce
Est-ce
qu'on les connaît, en fait.
L'État devrait pas... Enfin, t'aimerais que l'État se saisisse de ça un peu ?
Mais l'État, il s'en saisit clairement pas assez. Enfin, c'est assez okay. fou que... Enfin, c'est assez fou le niveau de déresponsabilisation de l'État sur ces sujets-là. Mais d'ailleurs, bon. En plus, il se fait sans arrêt taper sur les doigts par Bruxelles, encore il y a une semaine.
Ouais, mais est-ce que justement, là, on ne rentre pas dans un truc de lobbying avec, on sait tous que l'argent égale pouvoir.
Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Bah, c'est l'État, il doit. Il y avait un super bouquin qui disait qu'à un moment donné, le pouvoir devrait être capable de dire merde au lobby, quoi. C'est ça la vérité, c'est-à-dire à l'argent tout puissant.
Bien sûr.
De dire merde pour prendre les décisions qui s'imposent. Et aujourd'hui, ceux qui sont manettes, ils n'ont pas le courage. En fait, ça pourrait être des héros s'ils osaient, ils étaient audacieux, mais ils n'ont pas le courage, en fait.
L'argent est plus fort que le pouvoir aujourd'hui.
Clairement,
le pouvoir
exécutif.
Il n'y
a pas de débat. Okay. C'est fou la puissance qu'ils ont. Enfin, quand on voit dans les COP et tout, les gens qui sont payés pour aller faire du lobbying là-dedans, c'est assez dingue que ça soit autorisé. Évidemment, c'est normal. Tout le monde fait son propre lobbying à chaque niveau. C'est assez humain.
Je veux t'embêter avant de te laisser partir, sinon c'est pas drôle. Non, je voulais te parler d'international, puis juste dans tout ça, avant de parler d'international, et pour te donner un indice, les US.
Ouais.
Quand tu vas à Tokyo, enfin au Japon...
Alors moi, j'y vais plus, je prends plus l'avion, je suis devenu un ayatollah.
Ah bah voilà, c'était la question que je voulais te poser. Non mais vraiment,
depuis
ok, donc tu
ans.
Ne prends plus du tout l'avion.
Non, je prends plus l'avion, ouais.
Donc t'es plus du tout allé au Japon ou t'y vas vraiment?
J'y vais plus depuis 5 ans.
Ouais, ou alors c'est 20 jours de... ou plus.
Non, tu vas en transsibérien.
Ouais.
Moi j'ai prévu vraiment un voyage en transsibérien l'année prochaine où je resterai 2 ou 3 mois au Japon.
Donc c'est quoi, tu passes par Russie, ensuite...
Ouais, Moscou jusqu'à Vladivostok, bateau et après le Shinkansen.
Ouais, ok, je vois, parce que j'étais en Chine et j'ai des potes qui sont rentrés de Chine
ouais,
à Paris.
Ouais, t'as le transmanchourien qui passe par Pékin.
Ouais,
c'est... traverse la Mandchourie.
Ok, ben du coup, je te pose la question, les US, même si c'est pas toi qui l'ouvre et que c'est peut-être des associés à toi ou quoi, mais est-ce que c'est envisageable? Si je pose la question, c'est ouais. simple, je suis marocain
ouais.
et je suis allé dans plein d'autres pays, ben, ouais. même la Chine, il y a une culture du pain.
Ouais.
Et c'est pas que en France, c'est-à-dire que il y a plein de pays dans lesquels le pain,
ouais.
c'est une référence. Aux US, il est dégueulasse. Mm. Et j'ai vécu 4 ans au Canada, il est aussi dégueulasse mm. là-bas, et même les boulangeries françaises, c'est pas des vraies boulanges. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-bas? Et je pense notamment à l'école que tu as créée au Japon.
En fait, avec la marque Maison Landman, on n'avait pas du tout vocation à aller à l'étranger parce que je trouvais que j'apportais pas quelque chose en plus sur le marché. Mais avec Land & Monkey, c'est complètement autre chose.
Okay.
Et là, pour le coup, on a un développement, une ambition en national et à l'international qui sont ultra ambitieuses. Et j'ai recruté des profils justement qui vont m'aider à aller chercher ce national et cet international. Là, on ouvre déjà en province cette année.
Ok.
On ouvre dans 3 villes et on
en
est
France, hein, du coup.
En France et on est en négo sur des ouvertures en master franchise dans plusieurs pays du monde. On a une énorme traction. On a 10 demandes par semaine de franchise sur cette marque-là.
Ok.
Et
t'as jamais franchisé pour le moment ?
Non.
C'est pas des franchises, c'est en gestion directe. Hein.
C'est de la succursale pure.
Ok.
Voilà.
Et c'est quoi les pays auxquels tu penses ? Tu peux
Alors,
lâcher des pistes.
Ouais, bien sûr. Donc l'Europe, c'est tous les pays scandinaves, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, parce que c'est des pays ultra sensibles sur ces sujets-là. Mm-hmm. Donc très en appétence pour le végétal. Bien sûr, l'Asie avec cette densité via Taïwan ou Tokyo, un peu en retard. Le Japon, un peu trop tôt. Les
ah
US
ouais,
et le Canada aussi, bien sûr, très sensibles avec un réservoir de clients énormes sur le végétarisme et le véganisme.
Tu ne vois rien faire aujourd'hui qui n'est pas dans le vegan, en gros? Genre...
J'investis que dans des boîtes qui sont sur la transition alimentaire ou qui portent ces sujets-là.
Ok.
Il n'y a aucune... Enfin, quand je reçois... Je leur dis, hein, quand je reçois des decks et que ce n'est pas en lien avec ça, je dis, je peux pas financer. Je n'irai pas dans des projets qui sont pas en lien avec ça.
Donc, on verra pas d'autres boulangeries maison lendemain classiques.
Si, il y en aura d'autres parce qu'en fait, le sujet, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu dois pas te dire, je pars toujours d'une feuille blanche. Maison lendemain, ça existe avant ces sujets-là. Enfin, cette prise de conscience.
Mais c'est
sur
du
ces
levier. Ça a permis de créer.
Et tu peux aussi progresser. C'est-à-dire, tu peux l'amener à être plus vertueuse. Donc, tu peux végétaliser de plus en plus. Faire gonfler sa RSE pour qu'elle soit plus jolie. Enfin, nous, on s'inspire de Land & Monkey qui a disrupté, tu vois, pour essayer de faire progresser. Chez Maison Land & Monkey, tu as quand même 600 collaborateurs. Si jamais tu fais plus rien, les gens, ils vont dire, voilà, oh, il se passe plus rien. Tu as besoin de dynamiser aussi la marque et qu'il se passe des choses pour les grimpeurs. Ils ont besoin de grimper. Donc, tes cadres qui ont besoin qu'il se passe des choses, il faut leur donner un petit peu des pentes à grimper, quoi, tu vois.
Et cette interview touche à sa fin, mais avant de te laisser partir, cher Rodolphe, ne tue pas mon matériel. Je vais te poser quand même ces deux, trois petites questions du tac au tac.
Vas-y.
C'est parti. La première est simple, c'est quoi le conseil le plus sous-coté, donc celui que toi t'aurais aimé entendre à tes débuts avant de lancer Maison Lendemain?
Être soi-même.
C'est-à-dire? Comment, est-ce qu'on peut être soi-même sans
être se connaître? Être soi-même, ça veut dire avec ses qualités, ses défauts. C'est-à-dire que tu vois, accepter qui tu es, parce qu'en fait tu peux pas trop tricher et enfin tu vois ça met en évidence tes faiblesses, tu peux pas ne pas les regarder en face, et si tu les regardes pas tu progresseras pas. Donc en fait faut accepter d'être pas bon sur plein de choses et d'être bon sur d'autres choses et te dire bon ok, je suis nul là-dessus, tu vois t'as tendance à vouloir occulter tes faiblesses même vis-à-vis de ton staff, de tout ça, mais en fait non, si tu les acceptes, que tu les embrasses, t'es complètement en paix avec toi-même et en fait, t'as plus de confiance en toi.
Très clair. Qu'est-ce que tu détestes faire? Dans quoi t'es mauvais?
Dans quoi je suis mauvais?
Ouais.
Alors, moi, où j'étais très mauvais, je le suis moins maintenant, c'était la prise de parole en public. Parce que je suis un méga introverti.
Ça va.
Mais j'ai travaillé, c'est ce que je te dis là-dessus.
Ok.
Et moi, j'étais un geek à l'école, tu vois. Enfin, vraiment, tu sais, joueur d'échecs, machin, tu vois. Un peu dans mon monde. Et donc, la prise de parole en public, je te parle en vrai public, c'était pour moi hyper dur au départ.
C'est super drôle parce que tout le monde, enfin, aujourd'hui, je fais un métier qui est assez de l'animation. Et toutes les années d'études où je me levais, juste me présentais en cours, mon cœur se mettait à battre. Et en vrai, c'est pas que j'étais timide, c'est juste que, bah, je crois que j'aimais bien ça, mais j'avais un peu peur. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Ces dernières questions.
Si.
Si tu avais la possibilité de choisir un board member ou un mentor, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, quelqu'un qui pourrait t'épauler sur une des trois activités à l'heure actuelle.
Mais je sais pas si je prendrais un mec qui est super brillant et qui m'épaulerait sur mes activités, ou si je prendrais une figure iconique sympa qui en fait, tu vois, arriverait à faire un espèce de consensus général où tout le monde l'aimerait, quoi, tu vois.
Bah,
je pense qu'un... je pense qu'un Zidane, il a beaucoup plus de value dans la boîte qu'un mec qui vient de te donner plein de conseils. T'imagines, tu dis, j'ai Zidane à mon board. Enfin, tu lèves 100 millions de mains, quoi. Rien que parce que c'est Zidane.
Coup de tête.
Donc, en fait, je prendrais des mecs comme ça, tu vois, des mecs que tout le monde adore. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est pas un rationnel. C'est l'émotion qui prend le dessus. Donc, si tu vois, je peux pas le dire parce que je suis enlevé, c'est dommage. Mais au board de ma boîte de la levée qu'on est en train de faire sur Yungo, il va y avoir un mec, tu peux même pas imaginer qui c'est. Je te le dirais, tu me croirais pas. Et c'est un sportif. Et je peux te dire que quand on va lancer le
truc. Tu veux pas m'étudier comme ça, Roto?
Tu diffuses quand?
On le diffuse je crois que c'est le 18 mars.
18 mars?
Ouais.
Mais je sais pas si j'aurais bouclé.
Non, mais prends pas le risque, c'est pas grave.
Mais
tu me le diras juste après.
Le mec, c'est du niveau Zidane. Vraiment, c'est un mec extraordinaire.
Écoute.
Bon, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que.
Niveau de Zizou, y'a que Zizou.
Ouais, voilà, Zizou, y'a Zizou. Mais c'est un mec, voilà. Donc, en fait, t'as ça au board. Enfin, le conseil, tu vas aller le chercher facilement partout. Il y a trop de gens qui ont la tête bien faite.
Ouais.
Avec plein d'expérience. Et puis, il y a tellement de. Tu peux tout sourcer maintenant. Je prendrai un mec avec une capitale sympathie de fou.
Alors, un bon entrepreneur doit avoir un capital sympathie de fou, selon toi.
Mort.
Ouais.
Si t'as pas
toi,
ça.
Toi, c'est sympathique si on pose la question à tous tes employés?
Non. Mais moi, je suis un super caméléon. Je m'adapte à qui j'ai en face, mais vraiment. C'est ça ma force.
Quand on vous dit que l'humilité est une forte qualité des entrepreneurs. Bon, dernière question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien?
Si j'enlève les sujets d'actualité contemporaine, franchement, je suis hyper heureux. Je dirais 9.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche?
9.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien?
9.
Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? À quel point il est difficile?
1.
Ah ouais, donc l'entrepreneuriat, c'est pas si difficile que ça.
Mais non, mais parce qu'en fait, quand c'est naturel, enfin, j'ai pas l'impression de bosser. Je bosse, tu vois, ce que je fais, c'est tellement cool que c'est trop cool en fait.
Est-ce que
ma vie, elle est fun.
La passion est plus forte que le talent, selon toi?
Oui, 1000 fois.
Parce que la passion mène au dur labeur.
C'est que le travail. J'y crois pas une seconde.
Et en fait, le travail du côté effort.
Ouais.
Tu le vois pas parce que tu prends du plaisir.
Exactement. Si tu kiffes pas, t'es mort.
Je crois que je t'ai bien compris, Rod. Ça y est. Bon, un grand merci. J'espère que t'as
merci
fait
à toi.
Du plaisir. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Désolé pour les petites sirènes si on les entend. On va essayer de faire un beau montage. Merci à tout le monde. Et puis, je te dis merde à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent dans toutes leurs activités entrepreneuriales. Allez, bonne journée à tous, bonne semaine et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Au revoir.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.